Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Écoutez nature, il pleut sur la glace. 10 janvier, au bord d'un étang en partie gelé, j'attends la sortie d'un castor à la nuit tombante.
Dans le monde des amoureux du son, Fernand de Roussin est une vedette. D'ailleurs, nous l'avons rencontré au Festival de la radio et de l'écoute longueur d'onde à Brest en février 2020. Mais Fernand de Roussin est aussi reconnu par tous ceux qui aiment la nature, car il est l'un des rares audio-naturalistes en France. Mais qu'est-ce qu'un audio-naturaliste ?
Un audio-naturaliste, c'est la personne qui parcourt la nature, enfin en général ce qu'on appelle nature, parce que nature c'est un peu tout, un chat c'est un nature, un bouquet de fleurs c'est nature, je dirais le monde sauvage, voilà. On parcourt le monde sauvage avec nos microphones et on enregistre tous les sons qu'émet le monde sauvage, que ce soit des animaux, que ce soit des éléments naturels, que ce soit le paysage et toutes les interactions qu'il y a avec. Alors la différence entre l'audio-naturaliste et le bioacousticien, elle est majeure. L'audio-naturaliste travaille sur l'art des sons de la nature, sur la qualité artistique des sons, alors que le bioacousticien va travailler sur la science des sons de la nature, sur le fondamental, sur qu'est-ce que veut dire un son par rapport au comportement, enfin voilà, au comportemental. Alors que l'audio-naturaliste cherche la beauté du son de la nature et cherche les interactions presque musicales, en fait, entre les animaux et entre le paysage.
Mais vous n'êtes pas pour autant un field recorder, enfin, ou alors si, mais d'un genre spécifique.
Ouais, bah, on met tout dans field recording, c'est vraiment c'est un fourre-tout, un field recorder.
Field recording, enregistrement de paysage sonore, quel qu'il soit, pas forcément sauvage.
Je ne me détermine pas du tout comme field recorder. Le field recorder recherche à enregistrer du son, la matière sonore. Moi, je cherche à enregistrer la vie. Je cherche à enregistrer des animaux, des interactions qu'il y a entre eux et la beauté de ce que le monde sauvage peut nous offrir à écouter. C'est toute la différence. Le field recorder va utiliser sa matière pour en faire des œuvres de composition. Moi, je vais faire la même chose, mais uniquement avec des sons de la nature, sans les transformer. Il n'est pas question de les transformer. Il y a bien sûr du tuilage dans les montages, parce qu'on est obligé de raccourcir le son, enfin les sons et les ambiances, mais il n'y a pas du tout de transformation du son pour en faire autre chose, ou pour le mélanger à autre chose, ou ainsi de suite.
Et surtout par rapport, parce qu'il y a des paysagistes sonores qui gardent tout et qui ne travaillent pas trop leur matière finalement, mais vous, comme vous êtes audio-naturaliste, vous allez aussi fuir tout ce qui est artifice, enfin son d'origine humaine du coup.
Voilà, tout ce qui est humain en fait ressort. Nous, l'audio-naturaliste va chercher la matière première d'avant l'humanité quelque part, même si c'est complètement faux, parce que l'homme a une telle interaction sur son milieu naturel depuis 20 à 30 000 ans qu'énormément d'espèces ont déjà disparu, d'ambiance, enfin de milieu. Mais on essaie quand même, dans la mesure du possible, de retrouver une espèce de virginité du son, enfin de ce qui était le son, et qui a évolué en fait au cours des millions d'années. Il ne faut pas oublier que la musique humaine a 40 à 50 000 ans, les sons de la nature sont une évolution de 350 millions d'années. Donc on est dans deux thèmes différents. On ne peut pas comparer l'un et l'autre.
Mais même dans votre carrière, qui est quand même assez longue, mais qui n'a pas 350 millions d'années, est-ce que vous avez quand même vu évoluer le son de la nature ?
Ben oui, oui et non. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne prend le son de la nature que pour détente, relaxation, enfin dans ce sens-là. On ne prend pas le son de la nature comme un message, comme un langage. Pour moi, les sons de la nature sont un langage comme une langue parlée, sauf qu'elle ne se parle pas directement, mais elle se comprend. C'est une langue que l'on comprend. C'est la langue de tous les animaux, qui, en interaction, eux-mêmes se comprennent. Hein, dans tout ce qui se passe dans les comportements, il y a toujours des interactions entre espèces. Nous, malheureusement, on a perdu cette écoute. Alors, je dis toujours comme ça que un peuple autochtone, enfin les peuples premiers, quand ils disparaissent, leur voix et leur langage disparaît avec. Nous, on a l'impression qu'on n'entend plus la nature. Pourtant, elle est là. Elle n'a pas disparu. Et les sons de la nature sont encore là. Il suffit d'ouvrir ses oreilles.
Oui, mais il y a peut-être quand même des espèces qu'on n'entend plus ou qu'on entend beaucoup moins. Enfin, si vous, par exemple, vous travaillez régulièrement sur un même endroit, ça bouge pas trop ça, ou est-ce que quand même il y a des sons qui disparaissent, comme l'avait constaté, Bernard Crozes?
Oui, il y a une évolution, c'est certain. Il y a une énorme évolution, notamment dans les campagnes. Les campagnes deviennent silencieuses de plus en plus parce que, les pesticides, ils sont pour vraiment beaucoup, notamment chez les insectivores qui souvent sont des très bons chanteurs, enfin, les plus beaux chanteurs. Par contre, en ville, les espèces qui restent, c'est-à-dire qui se sont adaptées à l'homme, qui sont adaptées au parc, au jardin, à la ville, elles sont en train d'augmenter. Et c'est presque en ville qu'on a les plus beaux chorus maintenant. Vous voyez, je fais la différence entre chorus et concert, ou même si je dis parfois la grande symphonie du vivant, parce que je trouve que ce terme est très joli, mais en fait, quand je parle d'ambiance nature, je parle de chorus. Pour moi, c'est un cœur général entre les animaux, les éléments et le paysage. Écoutez Nature, audiophonie hivernale. L'installation pour la nuit d'un hydrophone dans une mare ici en Plaine des Morts peut réserver parfois de nombreuses surprises. En cette fin de janvier, avec une température relativement douce, c'est une grenouille agile qui chante sous l'eau à partir de 3h du matin. Elle est accompagnée d'insectes aquatiques, et le tout compose ainsi une ambiance digne d'une soirée d'été. Et ça vaut bien 5 minutes d'écoute.
Est-ce que c'est toujours harmonieux? Est-ce que parfois c'est pas dissonant?
Bien sûr, il y a tout dans la nature. On n'a rien inventé, l'homme avec ses oreilles, avec ses machines, n'a rien inventé. Tout est déjà dans la nature. Tous les sons, les plus horribles possibles et les plus beaux, sont déjà dans la nature. Vous savez, on a 10 000 espèces d'oiseaux qui chantent sur la planète. Ces 10 000 espèces d'oiseaux ont entre 3 à 60 émissions différentes par espèce. Donc ça fait une diversité, rien que pour les oiseaux, énorme. On rajoute les mammifères, on rajoute les batraciens, on rajoute les insectes, on rajoute les poissons, on rajoute les reptiles, et puis en plus même d'autres, les crustacés, les mollusques, enfin, tout le monde chante en fait sur cette planète. Et c'est pour ça que j'aime à dire que nous sommes sur une planète qui chante et sur une planète enchantée.
Et alors vous enregistrez beaucoup les animaux, c'est ça? Dans n'importe quel milieu
Oui, dès que je me trouve dans un espace à peu près calme, dans le silence des hommes, moi j'aime dire le silence des hommes, c'est quand la présence de l'homme n'est pas présente, là je cherche toujours une source sonore qui va m'apporter un moment de contemplation. C'est ce que je recherche dans mon travail, c'est la contemplation.
Et vous travaillez à quel endroit alors?
Partout sur la planète, partout où le temps et les moyens financiers me permettent d'aller. Donc j'ai parcouru tous les continents, c'est sûr. Je suis allé sur les glaciers du Spitzberg, comme je suis allé sur le volcan de Etna en Sicile, comme je suis allé en Australie, dans les forêts qui ont brûlé là actuellement, mais avant qu'elles brûlent, donc c'était une merveille. Et je crains qu'il y ait des beaux concerts et des beaux chorus, effectivement, qui aient disparu depuis. Enfin, voilà. Dès que j'ai des moyens ou dès qu'on m'invite, parfois je suis invité, je vais de par le monde rechercher la beauté des sons de la nature. Écoutez Nature, je vous souhaite une très belle et bonne année 2020 à l'écoute des sons de la nature et de votre podcast préféré, bien sûr. Et aujourd'hui, pour mettre un peu de baume au cœur à cet hiver un peu froid, Je vous invite à découvrir un chorus, un magnifique chorus enregistré le 13 décembre au Sénégal, sur l'île de Gior, dans le Siné Saloum. Je laisse aller cette écoute où les tourterelles foisonnent, où la gonolèque de Barbarie résonne, où de nombreux oiseaux m'étonnent. Donc je vous souhaite encore à tous une bonne et heureuse année.
Ça vous est arrivé d'enregistrer sous l'eau, le milieu sous-marin ?
Oui, bien sûr, oui. C'est pas du tout le monde du silence, sauf dans les grandes profondeurs. Bon, il est vrai que... Mais sur les côtes, notamment, il y a énormément d'animaux qui émettent des sons. Alors, on n'est pas dans la même perspective que sur Terre, où on a des oiseaux qui chantent d'une façon mélodieuse, des mammifères qui ont des langages. Non, c'est plutôt du bruitage sous l'eau. Hein. On est beaucoup avec des stridulations, avec des râpes, avec des grincements, avec des pétillements. Enfin, voilà, c'est tout ce genre de choses hein, qui sont émis. Les poissons, les crustacés, qu'est-ce qu'il y a d'autre, on peut dire. Bon, ça en fait déjà beaucoup. Hein. Même les plantes. Hein, les plantes émettent des bulles d'oxygène et en fait, elles peuvent s'entendre.
Ouais. Et oui, et puis tous les autres éléments enfin, dont vous me parliez hors micro, c'est les vagues. Enfin, est-ce que vous pouvez me raconter, par exemple, vous êtes allé enregistrer en presqu'île de Crozon, là, qu'est-ce que vous avez entendu ?
Voilà, hier, la journée était merveilleuse. Moi qui arrive presque de Provence, j'ai retrouvé le soleil et le ciel de Provence hier. J'en revenais pas. Surtout que le matin même, une personne me disait à l'hôtel, il y en a marre, et on a du mauvais temps depuis 3 mois, on n'en peut plus. Alors moi, j'arrive là, j'ai du grand soleil, je découvre la presqu'île de Crozon et la pointe de la Chèvre, c'est ça, non ? Cap de la Chèvre. Et donc là, je cherche un petit peu une petite plage à l'abri du vent qui venait d'ouest. Et je suis arrivé sur la zone géologique, enfin il y a une zone géologique, où là j'ai trouvé une petite plage avec des grands bancs de galets extraordinaires. Et là, la vague respirait. C'est-à-dire qu'elle roulait sur les galets. Et donc à chaque fois que les galets roulaient, c'était l'aspiration. Et à chaque fois que la vague revenait, c'était la respiration. Donc, j'ai laissé tourner 3 heures. 3 heures d'enregistrement, mais très évolutif, parce que la chance que vous avez en Bretagne, ce sont les marées. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que une même ambiance n'est jamais la même, car de minute en minute, la vague s'éloigne ou revient, la marée emmène l'eau au loin ou la ramène vers la plage. Il y a un combat permanent entre la terre et la mer, et c'est extraordinaire.
Et alors pour percevoir l'évolution, là il faut écouter les 3 heures d'enregistrement du coup alors.
Oui, vous pouvez écouter toutes les 10 minutes un petit extrait, hein, ça s'entend déjà. Hein. Mais voilà, vous abordez là vraiment la problématique, comment écouter les sons de la nature. Le son de la nature n'est pas vraiment radiophonique. On l'a remarqué parce que ça va pas assez vite. Dans la radio, on aime bien que tout rebondisse, tout se complète. Enfin, voilà. Et pour les sons de la nature, il faut prendre son temps. C'est du temps, là, les sons de la nature. C'est une écoute, parce que les sons de la nature vont parler à votre vitesse. Eux, ils ont un rythme qui leur est alloué depuis des millions d'années. C'est pas nous, hommes, qui allons faire accélérer le chant d'un oiseau, parce qu'on a besoin de place sur l'antenne, oui, ce que je veux dire. Donc, il faut du temps pour écouter les sons de la nature.
Et alors, qu'est-ce que vous allez en faire de ce son-là ?
Non, là, pour le moment, il rentre dans la sonothèque. Ma sonothèque est composée de 50 000 enregistrements, dont 2000 espèces d'oiseaux, et puis... après, batraciens, mammifères, enfin tout ce que j'ai déjà évoqué. Et donc il va rentrer dans les paysages sonores, hein, puisque là il est parfaitement défini, il est même localisé au GPS, donc je sais exactement où c'est. Et ce qui permettra dans les générations futures, de réécouter cet enregistrement et d'aller comparer sur place s'il y a une évolution du milieu. Enfin, il faut retrouver les mêmes conditions météo. Mais voilà, c'est une des choses principales.
Donc vous faites de la conservation du patrimoine sonore, en fait.
Oui, bien sûr, puisque je suis cofondateur de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. En 2005, j'ai déposé 15 000 enregistrements pour cette Sonothèque. Et depuis, elle s'est agrandie. Maintenant, elle en est à 60-70 000 enregistrements. On va pas tarder à atteindre les 100 000 enregistrements qui sont mis à disposition des chercheurs, des étudiants, pour leurs connaissances, là, principalement d'ailleurs en bioacoustique, dans la science des sons de la nature.
Et vous produisez aussi, donc vous disiez, vous parlez d'art. Quand vous produisez une œuvre artistique, enfin revendiquée comme telle, je ne sais pas sous quelle forme, un disque ou autre chose, là, qu'est-ce que vous faites comme travail sur votre son ?
Alors moi, j'essaye d'être en rapport avec le sujet. Souvent, c'est la journée, ou c'est une famille d'animaux, ou c'est un lieu. Donc une fois que j'ai établi la thématique, j'essaye de me tenir à cette thématique, mais d'évoluer pour que l'oreille humaine puisse comprendre une histoire. Parce que c'est vrai que si je mettais 3 heures de plage en disant bah « là, il se passe là, et ça, il se passe ça », non, c'est pas possible, c'est impossible. Alors dans les compositions audio-naturalistes, les concerts naturophoniques, comme j'appelle ça, donc il y a toute une mise en forme, un montage très très évolué qui permet d'avancer en fait dans une histoire. Mais les dernières pièces sonores que j'ai réalisées, c'est des bruits dans la nuit. Donc ça, je vous donnerai le lien pour y écouter. Et puis Murmure de sable, que j'ai été enregistré en Mauritanie l'année dernière. J'ai passé 3 semaines dans le désert à écouter et à enregistrer le sable et les animaux qui sont présents avec. Et là, j'en ai fait une pièce sonore très subtile. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le silence, mais c'est un silence qui fait du bruit.
Et alors, comment est-ce que vous travaillez ? Enfin, la question est peut-être un peu abrupte, parce que vous travaillez sûrement différemment selon les circonstances, mais en gros, c'est quoi votre approche, votre façon de travailler ?
Alors pour être plus concret, je dirais que comment j'utilise mon matériel, je prends toujours l'exemple des photographes, parce que tout le monde connaît exactement la photographie. On sait qu'on utilise un boîtier, qu'on utilise un téléobjectif, qu'on utilise un grand angle, qu'on utilise un macro-objectif pour les sources proches. En son, c'est exactement pareil. J'ai des microphones pour enregistrer de loin, ce sont les paraboles qui me permettent de rapprocher les sources sonores. J'ai un micro-canon qui me permet d'être très très directionnel, c'est-à-dire d'avoir juste la source qui est devant moi, sans amplifier, mais juste la source. J'ai 2 microphones pour faire ce que nos oreilles écoutent, c'est-à-dire de la stéréophonie, et j'ai de la multiphonie avec 5 ou plus de microphones pour avoir du 360 degrés ou de ce qu'on appelle maintenant de l'immersif, du son immersif. Voilà, donc on fait comme en photographie, en fait. On utilise des matériels qui sont adaptés aux situations que l'on rencontre sur le terrain.
Ouais, mais vous ne partez pas avec tout votre matériel ? Ou est-ce que vous faites des repérages avant ? Enfin, comment vous faites ?
Voilà, il y a beaucoup de repérages, ça c'est sûr. Et puis, on a quand même un matériel de base, toujours. Parce que dans la nature, les animaux ne sont pas des acteurs. Vous ne leur faites pas refaire une deuxième prise, ça c'est sûr et certain. Donc il faut toujours quand même avoir le magnéto et le micro de secours immédiat pour enregistrer si c'est possible. Et après, c'est le choix qui est fait selon la thématique. Effectivement, quand je vais en mer, je ne prends pas tout un tas de microphones, je ne prends qu'un hydrophone, ça me suffit largement.
Et vous y allez quand même, évidemment sans idée préconçue, mais est-ce que parfois vous vous dites, tiens, aujourd'hui je voudrais enregistrer des oiseaux, enfin j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, ou est-ce que vous attendez ce qui se passe, quoi ?
Mais non, ça va bien, bien au-delà de ça, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'après 40 ans d'expérience, je ressens la nature, je ressens le monde sauvage. C'est-à-dire que je suis revenu dans ce qu'on a tous perdu, c'est-à-dire notre instinct. Quand je sens... une nuit de pleine lune là actuellement, je sais que c'est le rude du renard. Instinctivement, je sais où aller mettre mes micros en me disant peut-être que cette nuit j'aurai des sons de renard. Début mars, première douceur, mais enfin c'est tout relatif parce que là on sait plus où on en est maintenant actuellement, mais normalement première semaine de mars, douceur relative, les crapauds et les grenouilles chantent, elles chantent pas très long, ça dure 10 jours, 15 jours. Instinctivement, je sais que cette période-là, j'y vais, quoi. Enfin, et ainsi de suite, il y a un très grand calendrier qui va en gros de mars à fin novembre, où toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau dans la nature qui a besoin d'être enregistré ou écouté ou observé.
Donc vous avez du travail pour tous les jours ou toutes les semaines, enfin, votre rythme c'est quoi en gros ?
Mon rythme en gros c'est le printemps batracien oiseau, l'été insectes, automne plutôt mammifères, brames du cerf, des choses comme ça, et hiver éléments naturels. Donc voilà, en gros c'est ce que je fais.
Mais tous les jours ?
Presque tous les jours, oui, oui. Parce que c'est pas un métier, c'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie. C'est vraiment un mode de vie. D'ailleurs, à tel point que, j'étais parisien, et il y a 15 ans de ça, je me suis exporté dans la Drôme au pied du Vercors, où j'ai été chercher une vallée reculée, mais bon, c'est difficile de faire plus reculé que ça. Et depuis, je vis chaque jour pleinement en harmonie avec la nature, même bien souvent avec la fenêtre ouverte en permanence, pour écouter ce qui se passe et pour avoir une relation. J'aime avoir cette relation avec la nature.
Et est-ce que vous auriez, quel serait votre plus beau souvenir d'enregistrement ? Est-ce que vous en auriez un ?
Non, c'est impossible d'en prendre un. C'est impossible. J'en ai des milliers. Enfin, chaque enregistrement est presque unique. Les souvenirs les plus émouvants, c'est peut-être le sommet de l'Etna, quand j'enregistrais le volcan et que la terre tremblait tout autour, parce que tout le volcan tremble quand vous êtes là au sommet. C'est peut-être le jour où pour la première fois mon hydrophone plonge dans la mer Caraïbe en Guadeloupe et que j'entends les baleines à bosse. Ça, c'est une merveille. C'est chaque année le premier chant de rossignol qui arrive dans le buisson d'à côté de chez moi et que je m'empresse tout de suite d'aller écouter. Vous voyez, c'est tout ça. On ne peut pas mettre un nom sur un souvenir. C'est un tout, quoi, en fait.
Et comment vont vos oreilles ?
Très bien, parce qu'on les entraîne. On les entraîne à écouter, hein, ça c'est extraordinaire. Enfin, sauf qu'on est avec un casque toute la journée sur les oreilles. Mais bon, non, à 62 ans, j'entends encore jusqu'à 12 kHz, ce qui est pas mal. Ça me permet d'entendre encore bien les cigales et pas mal d'insectes. Mais j'y fais très attention. Mais ça s'entraîne en fait. Hein. C'était avec de pousser l'oreille à écouter les insectes, à écouter les cigales. Vous maintient en fait cette écoute en haute fréquence que l'on perd sinon. Hein. Si on reste toute la journée devant la télé, c'est sûr qu'on perd beaucoup de choses.
Hein. Ouais, et puis vous vous amusez pas à écouter des MP3 super forts, quoi.
Non, ne parlez pas de MP3, merci.
Si, alors, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de notre rapport au son, à nous les humains ?
Il est trop humain. Il est trop humain, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas aux autres, il ne s'ouvre pas du tout au monde sauvage. Là, on voit les pertes de biodiversité et tout ça. Bon, là, ça y est, on commence en fait à comprendre ce qui se passe, qu'on est en train de faire le grand massacre. Hein. Et l'écoute vous amène aussi à constater ça. Et écouter la nature, c'est reprendre contact avec son environnement. Il y a un exercice très très simple à faire. Vous le faites une fois par jour. Ça prend 5 minutes, c'est pas très grand. Vous asseyez quelque part sur un banc public, dans votre jardin, dans un espace, et vous projetez votre oreille au plus loin que vous pouvez écouter. Vous cherchez toutes les sources. Vous ne cherchez pas à savoir si c'est un oiseau ou quoi que ce soit. Vous vous amusez juste à les compter. Et au fur et à mesure, vous allez voir, votre écoute va de plus en plus loin. Vous la poussez. Et vous pouvez, comme je dis des fois, quand je suis dans le Vercors, écoute bien, on entend la Méditerranée. Mais bon, c'est pour dire que si on fait cet effort-là, c'est assez incroyable. C'est un exercice qui... Alors, on vit, actuellement, l'homme moderne, enfin l'humain moderne, vit dans une bulle de 20 mètres cubes. De 20 mètres cubes sonores. On est dans cette bulle-là, on est devant notre écran, on est devant la télé, on est sous notre casque, on n'entend plus ce qui se passe au loin, rien du tout. Donc cet exercice-là va vous emmener au-delà de cette bulle et va vous projeter en fait très très loin. Et je vous conseille vraiment de faire cet exercice une fois par jour. Et vous verrez que là justement ça va pousser votre oreille. Et vous constaterez aussi qu'il n'y a dans la nature aucun bruit qui agresse l'oreille. Alors que les bruits humains agressent l'oreille facilement. Écoutez Nature, 18 septembre 2019,
petit vent thermique du soir, alors que le soleil est en train de se coucher. Transition entre le jour et la nuit. Réveil des grillons italiens. C'est bientôt le début de l'automne.
Les extraits de la chronique Écoutez Nature sont disponibles sur le site internet de Fernand de Roussin, Naturophonia. Vous pouvez acheter également des ambiances sonores en longueur.